21 juillet 1985, et nous avons à poursuivre, à écouter les enseignements du Dieu vivant, à chercher à découvrir et à contempler le visage de Jésus dans ce livre des Proverbes. Ce soir, nous nous occuperons du chapitre 17 et du chapitre 18 de ce livre des Proverbes. Mais avant de faire cette lecture, nous voulons nous recueillir quelques instants devant notre Dieu. Ô Dieu, c'est vers toi que se tournent nos regards. Nous avons besoin de ta force toute puissante. Tu nous l'as promise par ton esprit. Et nous désirons que tu nous révèles vraiment le visage du Seigneur, de ton Fils bien-aimé, ta joie et ton bonheur, afin que nous aussi nous puissions discerner les beautés de Jésus, toute sa bonté, et que nos cœurs soient captivés par lui, que nous puissions céder à cet amour. Tu nous regardes, Seigneur Jésus, avec tout ton amour, et nous savons que tu désires nos âmes, de ton désir le plus profond, parce que tu nous voudrais heureux de ton bonheur. Jouissons de ta joie, de ta paix, alors que si souvent il y a encore tant de troubles dans nos cœurs ou même dans nos consciences. Nous savons que tu es capable de nous purifier de tout péché, de nos mensonges, de notre lâcheté, de tout ce qui nous caractérise encore et qui nous empêche d'avoir des vies et qui te soient agréables et agréables aussi aux hommes. Seigneur, parle-nous. Et que ce soir, nos cœurs étant ouverts, tu puisses œuvrer en chacune de nos vies pour notre bien suprême et pour ta seule gloire en Jésus. Amen. Bien, mes amis, nous vous disions ce matin que plus nous avancions dans cette étude, plus nous regrettions de ne pouvoir glaner que quelques épis au sein de ces gerbes magnifiques que contient ce livre, ce chant que nous considérons ensemble. Et nous vous disions que nous étions vraiment comme un voyageur qui, traversant un beau pays, voudrait tout voir alors qu'il est obligé de passer rapidement devant des paysages où il aimerait peut-être faire sa demeure. Eh bien, ce soir, retenons ce que nous pouvons et souhaitons revenir là où nous aurons entrevu une vérité à approfondir. Et je pensais, au fond, si nous n'étions pas enregistrés, que ces études, cette réunion, ce serait à vous de la faire, en y participant davantage. Mais cela viendra peut-être dans un autre temps où nous pourrons agir ainsi. Mais puisque nous sommes dans les Proverbes, peut-être que c'est bien que je vous les commente une fois encore. Dans les deux chapitres que nous devons survoler, je dirais une fois encore à très haute altitude, nous découvrirons des pensées déjà exprimées au chapitre 16 ou des maximes contenues dans d'autres chapitres que nous avons déjà considérés. Et je voudrais que vous compreniez bien que nous n'avons pas à voir là des désordres ou des répétitions pénibles. Si nous croyons à l'inspiration divine des Écritures, Eh bien, reconnaissons simplement que l'Esprit de Dieu a d'autres méthodes que celles de la sagesse humaine pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre. Dieu connaît notre cœur et sait combien nous sommes oublieux. Alors il trouve bon de nous répéter, comme une mère doit souvent redire les mêmes choses à son enfant et ne pas se décourager. Redire les mêmes choses, mais je te l'avais déjà dit. Mais l'enfant semble avoir oublié. Alors il faut revenir sur le même sujet. C'est quelquefois décourageant, mais l'Esprit de Dieu, il a cette méthode. Il est patient avec nous. Il sait que bien souvent nous avons la tête dure. Alors il revient à la charge et nous l'en bénissons. Non, ce ne sont pas des répétitions inutiles. Et si vous considérez bien les choses, vous verrez que même si c'est presque les mêmes mots, il y a presque toujours une différence, peut-être minime, mais ce verset contient une vérité complémentaire peut-être, et ça illumine l'autre verset. Et là où elle se trouve, eh bien, ces répétitions ne sont pas absolument sans lien avec ce qui précède et ce qui suit. On est frappé quand on étudie de plus près la parole, eh bien, il semble que ce sont des versets qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres, et pourtant, tout à coup, on découvre qu'il y a un rapport, que ça se tient. À première vue, ça n'avait pas l'air de se tenir, mais pourtant, ça se tient. Alors, je vous demande maintenant d'écouter ou de suivre cette lecture des chapitres 17 et 18, puisque nous sommes obligés de traiter ce soir ces 52 versets, puisque nous avons mis ces deux chapitres ensemble pour pouvoir arriver, comme nous vous le disions vendredi, au chapitre 31. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Réfléchissez à ce que cela peut vous dire. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas ce que moi je vous dis qui est essentiel. C'est ce que l'Esprit de Dieu vous dit. En appliquant cette parole à vos cœurs, à votre conscience, au milieu dans lequel vous évoluez, mieux vaut un morceau de pain sec. Vous voyez ce que ça veut dire. Mieux vaut n'avoir pas grand-chose à manger chez soi que d'avoir une maison où le frigidaire est plein, où tout est en abondance et où il y a d'incessantes querelles. Parce que des querelles, ça vous coupe l'appétit. Alors le pain sec vous aurait suffi. C'est vrai ou c'est faux? Alors, laissons cette parole nous dire quelque chose en 1985. Parce qu'il y a bien des foyers où ce n'est pas si brillant, même quand on a confessé le Seigneur. Nous le savons, c'est dans le monde entier. Je voyage assez, j'entends assez de choses pour être convaincu que nous avons besoin de nous laisser enseigner et corriger par cette parole. Le Seigneur voudrait nous donner la paix. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus que la paix? Avoir la paix, peu importe que j'ai un bon repas, mais que j'ai au moins la paix. La paix. Parce que les querelles nous coupent l'appétit. Verset 2. Un serviteur prudent domine sur le fils et qui fait honte. Et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Eh bien, si vous réfléchissez à ce texte et que vous pensez aussi à des exemples bibliques, tout s'éclaire. Et c'est vrai que dans les familles, il y a eu des serviteurs qui ont été honorés plus que le Fils même, le Fils à papa, qui a fait honte finalement à la famille, alors que le serviteur dévoué a été une bénédiction pour toute cette famille. Et qu'est-ce qu'il arrive? Eh bien, il arrive qu'un serviteur peut avoir part à l'héritage au milieu de ses frères. Le père étant tellement touché de ce qu'a été son serviteur et sa fidélité, qu'il le considère en quelque sorte comme un fils, et il lui donne une part à l'héritage, comme s'il était son propre fils. Je connais des cas où cela est arrivé. Mais il y a aussi une autre pensée, et ça j'ai connu aussi, et d'une façon très récente. Eh bien, un serviteur dans une famille est demandé en quelque sorte pour partager l'héritage aux enfants qui se disputeraient à n'en plus finir. Alors le père, ne voulant pas qu'il y ait des disputes, constitue en quelque sorte comme légataire universel son serviteur en lui disant « Tu feras le partage pour mes enfants pour qu'ils ne se disputent pas. » C'est quand même triste de penser que des frères peuvent se disputer. Un notaire me disait un jour, « Voyez-vous, cher ami, on ne connaît quelqu'un qu'à un décès. » Parce que là se révèle le fond du cœur. Là, vous découvrez ce qu'est le cœur de l'homme. Chacun veut tirer de son côté. Et souvent, lors d'un héritage, les familles se divisent. C'est quand même triste. Et vous dire qu'on ne peut pas s'entendre sur une question matérielle alors qu'on est frère et sœur de sang, et qu'il faudra peut-être que ce soit le serviteur qui ait la responsabilité de faire les partages. Bien, voilà ce que veut dire ce texte. Il y a donc deux interprétations possibles. Il peut, ayant la confiance de son maître, être celui qui va partager l'héritage aux descendants de cet homme, mais il peut aussi être considéré comme un frère et avoir lui-même part à l'héritage. Verset 3. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Vous comprenez ce que cela veut dire. Quand on veut purifier l'argent de ses scories ou l'or, eh bien, on le passe au feu du creuset. Non pas pour diminuer la valeur de l'argent ou de l'or, mais pour, justement, que tout ce qui n'est pas pur soit enlevé et que l'or ait toute sa valeur et l'argent aussi. Alors, ce texte sert à nous montrer que le Seigneur aussi éprouve les cœurs. Celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Le creuset et le fourneau sont pour l'or et l'argent, mais les épreuves qui nous viennent, eh bien, ont le même effet. C'est pas pour nous détruire. On ne met pas l'argent et l'or dans le creuset ou dans le fourneau pour détruire l'argent et l'or, mais pour le purifier. De sorte que quand vous êtes mis dans l'épreuve, quand Dieu vous éprouve, il n'est jamais contre vous. Il est toujours pour vous. Il voudrait que vous resplendissiez davantage de sa beauté, de sa bonté, de son amour, de sa miséricorde. Alors, il vous éprouve. Dans quelle épître trouvez-vous presque un passage similaire? Dans une épître de Pierre, au chapitre 1er, nous avons là un peu de lumière. Il est dit, il le faut, verset 6, que vous soyez peut-être attristés pour un temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, et qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le Seigneur voudrait pouvoir se reconnaître en chacun de vous. Et vous savez, quand on arrête le feu du creuset, le fondeur est là assis, c'était en tout cas comme cela dans ce temps-là, devant le creuset, et l'or était en fusion, et quand il pouvait voir son visage et que toute l'écume était mise de côté et que le visage se reflétait parfaitement dans l'or en fusion, on arrêtait le feu, l'or était pur. De sorte que quand le Seigneur nous éprouve, ce serait aussi pour qu'il puisse mettre son empreinte en nous, qu'il puisse se reconnaître, voir son visage. Mais comprenez-le, il ne laisse pas le creuset aller n'importe comment, il le surveille, il est assis au creuset. Et vous ne serez pas éprouvés au-delà de ce qu'il faut, au-delà de ce que vous pouvez supporter. Et c'est une leçon qui est très précieuse pour nos cœurs. C'est l'Éternel qui éprouve les cœurs. Hein. Ce n'est pas une machine, ce n'est pas une mécanique, ce n'est pas un fourneau, ce n'est pas un creuset fait par les hommes, c'est le Seigneur. Vous êtes dans la main du Seigneur, mes bien-aimés. Vous êtes dans la main du Seigneur. Laissez-vous faire par lui. Il vous aime et vous bénit. Faites-lui confiance. Le méchant est attentif à la lèvre inique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Et combien cela est vrai. Alors je me dis, quand je suis attentif à la lèvre d'un inique, j'entends quelqu'un qui est un homme pervers et qui dit des choses perverses, et puis que je suis attentif. Alors qu'est-ce que je dois découvrir? C'est que je suis un... C'est que je suis méchant. Si je peux écouter ce que dit l'inique, c'est que je suis méchant. Le méchant est attentif à quoi? À la lèvre inique. Alors tout à coup, je me dis, mais est-ce que je serai méchant? Il peut rester de la méchanceté. Alors je m'en juge. C'est un verset qui m'interpelle. Ah, tu écoutes ce qui se dit, simplement, puis tu le rapportes, peut-être. Pourquoi es-tu attentif à cela? C'est qu'il y a encore de la méchanceté dans ton cœur. Alors je m'en juge. Donc vous voyez que ce verset, il est pour moi aussi. Et puis, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Si je suis menteur et si je ne suis pas délivré de cette mauvaise racine, le mensonge, eh bien, je prête facilement l'oreille à des choses, à la langue pernicieuse, à quelqu'un qui dit des choses mauvaises, j'y prends intérêt, parce que moi-même je suis dans le mensonge. Alors ça m'encourage de voir qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas dans la lumière. Alors on est un peu consolé, soi-disant. Alors ça révèle notre état. Est-ce que je serai un menteur puisque je prête l'oreille à la langue pernicieuse? Si je prête l'oreille à la langue pernicieuse, ça me révèle que je suis menteur. Que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Hein? Voilà ce que dit l'Écriture. Alors vous voyez comme ce que je vous chantais, vous avez peut-être un peu souri, hein, que je vous chantais ces cantiques de mon enfance. Vous pouvez vous dire, il retombe en enfance, on voit bien. Non, ça n'a pas d'importance, puisqu'il faut être un enfant pour que le Seigneur nous révèle ces choses. Mais révèle ton livre à ma foi, rends-le vivant, c'est ça. Rends-le vivant, oh Dieu, pour moi. Et qu'est-ce que c'est un livre vivant? C'est un livre qui nous parle et qui va nous corriger. Que je m'y vois en ma laideur. Je veux voir ma laideur, parce que si je me crois beau et que je suis laid, je vis dans une drôle d'illusion. Puis c'est pas ça qui est intéressant. C'est que lui est ma vie et qu'il puisse regarder cela. Le Seigneur voudrait voir son visage en nous. Alors, il nous montre cela. Il nous aime tellement. Alors, je ne veux pas, comme l'on disait hier, je ne veux pas repousser la réprimande. Je veux accepter les réprimandes de mon Seigneur parce que je sais qu'il m'aime et qu'il me travaille pour lui. Verset 5. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Voyez que Dieu a le courage de prendre la responsabilité même du pauvre. Et Dieu a fait aussi le pauvre, ce pauvre-là. Il ne le voulait pas pauvre, mais c'est Dieu qui l'a fait. Les causes de la pauvreté, nous aurons l'occasion encore de les étudier. C'est souvent le péché aussi qui est là derrière. Mais enfin, le Seigneur ne veut pas nous laisser dans la pauvreté. Mais si moi, je vois quelqu'un de pauvre et que je le méprise, qu'est-ce que j'outrage? Qui est-ce que j'outrage? Ce pauvre? Non, j'outrage Dieu. Alors, voilà tout à coup aussi que je serai porté à changer mes jugements et mes comportements. Au lieu d'avoir toujours des critiques négatives sur ceci et sur cela, je me dis, mais c'est aussi Dieu qui l'a fait. Il est une créature de Dieu, ce pauvre. Alors, je ne vais pas le mépriser, mais je vais essayer de comprendre et je vais essayer de l'aider à sortir de sa pauvreté. Mais pour aider quelqu'un à sortir de sa pauvreté, ce n'est pas simplement de faire un don, hein. Mais c'est peut-être de l'éduquer pour qu'il arrive à avoir de l'ordre, à avoir le goût du travail. Et il y a bien des causes de pauvreté et qui disparaissent quand on se convertit vraiment au Seigneur. Quand on donne son cœur au Seigneur, il y a des changements radicaux qui se passent dans la vie d'un homme. On a pu être dans une situation très pénible, puis voilà que la lumière entre dans un cœur. Et j'ai vu des foyers et qui étaient pauvres, mais une fois que le Seigneur est entré dans ces foyers, il y a eu un changement au point de vue social. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vous n'avez pas des souvenirs que lorsque le Seigneur est entré dans un foyer, la condition sociale a été aussi élevée? On dépensait de l'argent pour boire, on dépensait de l'argent à tort et à travers, et puis on était toujours avec des fins de mois pénibles, et dans les dettes peut-être, mais une fois que le Seigneur vient, il nous saisit, et il y a des choses qu'on abandonne, et tout à coup on voit que, en ayant abandonné ces choses, on a d'autres possibilités. Cet argent qu'on dépensait d'une façon stupide, eh bien, devient pour nous une possibilité de faire d'autres choses. Voyez-vous, on pourrait s'arrêter vraiment sur chacun de ces versets, mais je vous ai dit qu'on devait passer à haute altitude et je me rends compte que je suis descendu assez bas. Alors, un peu en rase-motte, hein. Mais celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Ah, mes amis, quand vous entendez parler d'un malheur, qu'est-ce que ça vous fait? Ah, si j'ai une espèce de satisfaction, attention, hein, c'est donc que je me réjouis d'un malheur. Je ne resterai pas impuni. Je devrais avoir de la sympathie pour les malheureux auxquels est arrivé ce malheur. Et voilà que mon cœur est tellement tortueux que il se peut que je me réjouisse d'un malheur. Oh, ils n'ont pas volé, hein. On apprend qu'un malheur est tombé sur une famille. Je m'y attendais. Et on est presque content que ça leur soit arrivé. Méchant, méchant que nous sommes. Je ne vais pas me réjouir d'un malheur. Je devrais pleurer. Je devrais prier. Voilà les sentiments qui était en Jésus-Christ. Quand Jésus voyait des âmes qui s'opposaient à sa parole, il en pleurait. Il ne se réjouissait pas. Et à la fin de son ministère, il n'a pas dit, oh, maintenant j'ai fini, j'aurai tout montré. Il s'est mis à pleurer en disant, si je n'étais pas venu et que je leur eusse point parlé, ils n'auraient point de péché, mais maintenant leur péché demeure. Il ne s'est pas réjoui de penser que Jérusalem serait détruite parce que justement on allait le crucifier et qu'un malheur terrible allait fondre sur cette Jérusalem. Il n'a pas pleuré parce qu'on allait le crucifier. Il a pleuré parce que Jérusalem serait détruite et que des femmes, des enfants seraient massacrés et emmenés en captivité. Voilà pourquoi il a pleuré. Et quand les femmes pleurait en voyant passer le cortège de Jésus qu'on emmenait au Golgotha pour le crucifier, Jésus s'est arrêté et puis leur a dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous, en pensant aux choses terribles qui allaient arriver. Voilà ce qui devrait nous caractériser. Jésus a manifesté ça, et si je me réclame de Jésus, je dois aussi être caractérisé par les mêmes sentiments. Maintenant, vous arrivez au verset 6. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles et si vous suivez, dans la parole, parce que sans cela, je sais que ça ne durera pas longtemps, ce souvenir de cette parole. Mais pourtant, là, je me sens très concerné. C'est bizarre. Je pense que vous l'avez compris, que je me sente concerné. Pourquoi ? Les enfants des enfants. Ça veut dire ça. Ça veut dire mes petits-enfants. C'est drôle. Oui, ils me parlent. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Est-ce que c'est vrai ? Elle est terre. Sont la gloire de leurs enfants. Est-ce que c'est vrai? Je regarde si j'ai une couronne. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset 6? Les enfants des enfants. Voyez-vous, là, il est question de l'honneur d'une famille. Ça veut donc dire les petits-enfants. Alors, je dirais Karine et Manou, fils et fils de mes fils. L'un, c'est Jean-Bernard à Lausanne, Daniel à Montréal. Eh bien, mes petits-enfants, êtes-vous pour votre grand-père une couronne de gloire? Et pour vous, vous qui êtes nos petits-enfants, votre mamie Eva et votre papy Tou, comme vous nous appelez, est-ce que nous sommes votre gloire? Ça vous fait rire, hein, que je vous révèle des secrets. Ma petite fille de Lausanne, lorsqu'elle était encore, mes enfants étaient encore à Ottawa, notre petite fille nous a dit, ben, moi j'aime pas, je veux pas te dire grand-père. J'aime mieux, c'est mon papitou. Ça est sorti comme ça, puis on m'a appelé papitou depuis, hein, dans la famille. Alors, j'ai 15 petits-enfants, donc ça ferait une grande couronne. Hein. Surtout qu'il y en a qui viennent d'Orient. Alors, vous voyez, il y a quelque chose pour nous tous dans l'écriture. Laissons-nous interpeller. Verset 7. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé. Un insensé, n'est-ce pas, qui veut bien parler, qui on sait que sa vie n'est pas en ordre, qu'il est tout à fait insensé dans tout ce qu'il fait, mais il veut le faire de beaux discours. Et on se rend bien compte que ça ne convient pas. Ça ne colle pas, ça ne cadre pas. Combien moins à un noble les paroles mensongères, à un noble, à un homme éduqué, à un homme bien pensant. Mais si vous y réfléchissez, vous ne pouvez pas avoir des paroles mensongères. Vous avez une noblesse de cœur. Et cette noblesse vous a fait bannir le mensonge. Il n'y a pas besoin d'insister là-dessus. Les paroles mensongères. Les paroles mensongères, voyez-vous, j'ai eu 5 enfants. Mais où j'ai été le plus sévère avec mes enfants, c'est sur la question, laquelle ? Du mensonge. Parce que pour moi, le mensonge, ça ruine la confiance. Ils peuvent faire toute espèce de bêtises, nos enfants, mais pas le mensonge. Vous devez tout nous dire, mais pas mentir. Pas mentir. Parce que si vous mentez sur un point, on perd totalement confiance en vous et vous êtes fini, vous êtes brûlé. Et dans ce monde, c'est la même chose. Alors, le mensonge, là, je n'ai jamais passé. Et mes enfants m'ont remercié après. Ça n'a pas été facile. Il y en a qui croient que, bon, bien, parce qu'on nous prêche l'évangile, ça a été facile d'élever nos enfants. J'étais à Chicoutimi l'année dernière. Et il y avait 500 personnes là, autour, qui étaient là pendant cette conférence. Et après les réunions, on avait des réunions en plein air. Il y avait des mères de famille, des pères qui me demandaient « Comment est-ce que c'est allé avec vos enfants ?» Alors j'ai dû leur dire « Bien oui, ils croyaient que je n'avais pas eu de difficultés. » J'ai eu des difficultés avec les aînés, avec le deuxième, avec le troisième. Et on a dû agir d'une autre manière. Mais il y a eu les luttes, il y a eu les combats, il a fallu résister. Mais le Seigneur nous a aidés et nous a bénis parce que nous avons voulu reprendre nos enfants. Et ça n'a pas été facile. Et c'est peut-être encore plus difficile pour quelqu'un qui prêche l'évangile ou qui a une œuvre. Nous avions l'œuvre du refuge. Eh bien, c'était plus difficile d'éduquer nos enfants parce qu'on en avait 6 autres avec nous qui n'étaient pas de notre chair et de notre sang, mais qu'on élevait en même temps. Et c'était pas très drôle pour nos propres enfants. Et tout ce qui se passait dans la maison, ben c'était public, on était sur la rue, tout se savait, n'est-ce pas? Et alors on croit souvent que les enfants d'un prédicateur, eh bien, ils sont pas nés de la chair. Mais bien sûr qu'ils sont nés de la chair. Et ils ont les mêmes désirs que les autres. Et alors, ce n'est pas facile. Mais il y a des solutions dans le Seigneur. On peut trouver son aide et son appui. Mais, voyez-vous, les paroles mensongères, ça, je ne passe pas. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Alors ça, c'est très dangereux. Vous êtes dans une situation difficile, vous devez être passé en jugement, et alors, vous voulez influencer le juge dans sa décision, vous lui faites un présent. Est-ce que c'est permis? C'est pas toléré. Hein? Vous n'avez pas le droit de recevoir un présent. Parce qu'un présent vous aveugle. Et comme on aime tous avoir un présent, eh bien, si on l'a reçu, si on l'a accepté, que ça tourne d'un côté ou que ça tourne de l'autre, hein, eh bien, on est content. On a été influencé. Que Dieu nous garde de recevoir des présents. Et que ces présents ne soient pas à nos yeux une pierre précieuse. C'est la vérité qui est une pierre précieuse. Et on ne m'achètera pas. Verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Est-ce que vous avez des exemples dans la parole? Les fils de Noé en particulier, n'est-ce pas? Ils ont couvert la faute de leur père. Mais ceux qui révèlent ou qui la rappellent dans leur discours, eh bien, ils divisent aussi des amis. Ne racontons pas les fautes des autres. Cherchons plutôt à les voiler parce qu'on apporte la division. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Et cela, c'est facile à comprendre. Un homme intelligent, il est reconnaissant qu'on lui fasse une réprimande. Tandis que des fois, son coup sur le dos d'un insensé, il ne comprend encore rien. La question, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Sachez-le, tôt ou tard, le méchant qui ne cherche que révolte, eh bien, il trouvera un plus méchant que lui pour le rencontrer, et ce sera ce messager cruel. Passons plus loin. Rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Qu'est-ce qu'elle fait, une ours privée de ses petits? Hein? Elle est dangereuse. L'ours qui est privée de ses petits, elle est vraiment dangereuse. Mais un insensé, quand il est dans sa folie, il est plus dangereux qu'une ours. J'ai mieux avoir affaire avec une ours qu'avec un insensé. Parce que l'ours, c'est quand même la bête. Hein? Et puis, on peut peut-être la dominer. Mais un insensé, on ne sait pas où il va frapper. Et quand il finira. Alors, aller plus loin. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. prendre le mal pour le bien. Et c'est souvent ce qui est arrivé. Eh bien, le mal, vous êtes avertis, ne quittera point la maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Vous voyez ce que c'est? Vous ouvrez une digue, surtout en Hollande, hein, et puis qu'est-ce qui arrive? C'est l'inondation complète. Ouvrir une digue. On fait une petite ouverture, et puis l'eau se précipite. Et on ne sait pas ce qui arrivera. Alors, gardons-nous de commencer une querelle. Ne commençons pas une querelle. Nous ne voulons pas de querelle. Parce que quand on commence une querelle, on ouvre une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. On est en train de discuter, puis on commence à se disputer. On peut discuter entre nous, hein. Mais si ça devient une dispute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se retirer. Or, il y en a tellement que dans une dispute, ils veulent avoir raison. Et ils veulent avoir le dernier mot. Et c'est comme ça que ça s'envenime. Il n'est pas nécessaire d'avoir le dernier mot. Qu'est-ce qui doit avoir le dernier mot? Le Seigneur. Laissez le dernier mot au Seigneur. Ce n'est pas important que moi, je perde la face. Jésus, lui, il a perdu la face. C'est vrai. Sur la croix, il a perdu la face. Dieu n'a pas répondu. Alors, aux yeux des hommes, il a perdu la face. Jésus a baissé la tête. Mais nous, on redresse la tête, on a la nuque raide, on veut triompher, on veut avoir le dernier mot. Et c'est ainsi que nous envenimons les choses. Vous voyez que les proverbes ont une application tout à fait pratique dans la vie. Et ce sont des choses que vous devez savoir. Ces versets doivent être fixés dans votre sensibilité pour que vous réagissiez selon le Seigneur. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination aux yeux de l'Éternel. Absoudre un coupable, c'est une abomination. Mais condamner le juste, c'est aussi une abomination. Nous reverrons ces abominations dans un autre moment. Verset 16. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse? Mais il n'y a point de sens. Donc c'est tout à fait inutile. Et alors vous arrivez à ce merveilleux verset. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Alors ici tout de suite, quel est l'ami qui aime en tout temps et que vous connaissez? C'est Jésus. Alors nous cherchons à discerner et à contempler le visage du Seigneur. Ici on pourrait l'appeler le visage de l'ami. Il est l'ami. L'ami est qui, dans toutes nos circonstances, dans nos malheurs, s'est montré un frère, notre plus proche. Verset 18. L'homme, là vous auriez dans l'Ancien Testament, quelle image aussi d'amis qui se sont montrés frères. Jonathan en particulier, hein, que vous trouvez dans le livre de Samuel. Mais vous pouvez en trouver d'autres. Mais ça, c'est votre travail. L'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. Ça, nous l'avons déjà vu. Hein. Et ça revient, ça. Parce que c'est une fois, deux fois que ça nous est demandé, puis peut-être qu'il y aura une troisième fois. Celui qui aime les querelles, qu'est-ce qu'il aime? Le péché. Donc, alors, tout à coup, je me rends compte que j'aime les querelles. Qu'est-ce que j'aime? Parce que querelle, ça n'a pas l'air d'être péché encore. Hein. Mais tout à coup, voilà que ça prend un sens. Les querelles, c'est du péché. C'est du péché. Celui qui aime les querelles, il aime le péché. Est-ce que vous êtes querelleur? Je veux bannir la querelle de ma vie. Plus de querelle. Parce que sans ça, je pêche. Et je ne veux pas être un homme qui aime le péché. Je veux avoir en horreur le péché. Parce qu'à cause de mes péchés, Jésus a été crucifié sur la croix. Et je veux rester avec un regard sur la croix pour me donner l'horreur du mal, l'horreur du péché, l'horreur des querelles. Fini définitivement les querelles. Et nous continuons. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Qu'est-ce que c'est élever sa porte? Oh, ça fait bien, hein? J'ai un grand portail. Hein? Comme ça, ça attire les regards. J'élève ma porte ou bien je l'élargis parce que ça fait mieux. Eh bien, ça, c'est une preuve d'orgueil. Je ne veux pas élever ma porte. un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Alors, mes amis, qu'est-ce que nous disons là? Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Il a été parlé de la manière dont on peut trouver le bonheur, mais si vous êtes dans la fausseté, si vous acceptez d'être faux dans vos rapports, vous ne trouverez jamais le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Hélas, le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Hein? Est-ce que j'ai donné naissance à un fou? C'est réjouissant? Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Que des larmes. Verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Voilà de nouveau la médecine, les médicaments. Un cœur joyeux. Mais comment est-ce que notre cœur peut être joyeux? Par le Seigneur, source de notre joie. Mais un esprit abattu dessèche les os. Ça a une influence juste dans nos os, quand on est abattu. Alors le Seigneur ne veut pas que nous soyons abattus. Pourquoi ton visage est-il abattu, dit-il à Caïn? Dieu ne veut pas que Caïn soit abattu. C'est pas parce qu'il a refusé son offrande qu'il veut que le visage de Caïn soit abattu. Accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. On retrouve un peu de lumière pour éclairer le verset précédent concernant les présents. Alors, si j'ai cette tendance, moi j'aime bien les présents, eh bien, est-ce que je serai aussi un méchant? Et si j'ai des responsabilités, bien justement, je ne vais pas avoir de présents, je ne vais pas recevoir de présents. Pour quelle raison? Parce que je ne vais pas être influencé par les présents. Parce qu'on est ami de l'homme qui donne, hein, et puis alors voilà, on tombe dans la partialité. Il faut faire attention à cela. La sagesse est en face de l'homme intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et regardez la fin. Mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. La sagesse, elle est en face de l'homme intelligent. L'homme intelligent, il n'a pas besoin d'avoir ses yeux aux extrémités de la terre. Hein. Il sait ce qu'il a à faire, parce qu'il voit ce qu'il a à faire devant lui. La sagesse est en face de l'homme intelligent. Ce que j'ai à faire, c'est ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est ce que j'ai à faire ici. Tandis que, bien souvent, ce que nous constatons, c'est que les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Ils veulent tout remuer, ils veulent aller peut-être même comme missionnaires aux extrémités de la terre, hein, parce qu'ils pensent que c'est ça la sagesse, que c'est ça l'amour, que c'est ça ce que Christ leur demande. On veut aller aux extrémités de la terre, on a les yeux aux extrémités de la terre, et on ne voit pas devant soi, ici, ce que nous avons à faire, peut-être au Québec. Ça ne veut pas dire que vous n'irez pas aux extrémités de la terre, hein, parce que le Seigneur a dit que l'Évangile irait jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, il y a un équilibre à tenir, mais voilà d'autres passages qui éclairent. C'est possible que le Seigneur nous envoie aux extrémités de la terre. Mais encore faut-il qu'il nous envoie. Alors, n'ayons pas les yeux aux extrémités de la terre. Ayez vos yeux devant vos pieds. Parce que si vous avez vos yeux aux extrémités de la terre, surtout si vous descendez ces escaliers, je ne parle pas des escaliers de bois, les autres, hein, parce que, eh bien, ça ira mal. Je ne peux pas descendre les escaliers à Cedar Lodge, là, et avoir les yeux aux extrémités de la terre. Et je dois les avoir à mes pieds. Et c'est cela aussi une leçon pour nous. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qu'il a enfantée, donc c'est sa mère. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Il faut donc, en toute chose, de la justice, quelle que soit notre situation, notre occupation, notre métier. Vous voyez, il y a pour chacun de nous, il n'est pas bon de condamner le juste à une amende. Voilà, pour un juge, par exemple, ou enfin, pour quelqu'un qui a des responsabilités civiles, eh bien, il doit être dans son métier, dans son travail, un homme qui se laisse conduire par le Seigneur dans les décisions qu'il prend. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Ah, demandons au Seigneur qu'il nous donne vraiment ce caractère. Retenir nos paroles. C'est tellement facile de laisser partir une parole, puis après. Ben, cette parole, vous ne pouvez pas la reprendre. C'est parti, et ça fait mal. Et ça fait du mal. Et ça fait des ravages. Une parole. On s'est laissé aller. Tandis que celui qui a l'esprit calme. Voyez-vous, c'est l'esprit qui doit contrôler notre âme et notre corps, nos sens. Nous ne devons pas nous laisser aller. Nous devons avoir cette maîtrise de soi dont nous parlions ce matin avec les derniers versets du chapitre 16e. Et enfin, dans les derniers versets, l'homme l'insensé, même quand il se tait, il passe pour sage. Et c'est vrai. Hein? Quelqu'un qui se tait, eh bien, on pense que c'est un homme intelligent, c'est peut-être un insensé. Mais enfin, il a fait de prudence. Il passe pour un sage. Mais celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Demandons au Seigneur que nous sachions fermer nos lèvres. Alors maintenant, je vous fais simplement la lecture du chapitre 18. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Voyez-vous, ce verset, il a été très utile dans ma vie. Il y a eu des moments où j'avais envie de ne plus voir personne. Parce que j'avais trop souffert de ce qu'on me faisait ou de ce qu'on disait de moi. Et j'aurais eu tendance à me tenir à l'écart, à ne plus voir personne. Mais ce qui m'a empêché de m'isoler et de me replier sur moi-même, c'est cette parole. Parce que chaque fois que j'ai eu cette pensée de maintenant je quitte tout, je m'en vais loin de tout, celui qui se tient à l'écart recherche ce qui lui plaît, dit la version que je connaissais par cœur, il est ennemi de toute justice. Ou il s'irrite contre tout ce qui est sage, mais plus littéralement, il est ennemi de toute justice. Alors ça, hein, ça vous corrige. Tu ne vas pas t'isoler. Tu vas continuer de passer par-dessus, de pardonner et de revoir ces personnes. Celui qui se tient à l'écart recherche ce qui lui plaît. Il est ennemi de toute justice. Il y a tellement de gens qui nous disent, mais moi, je suis écœuré de toutes les communautés et je ne m'en vais plus nulle part. Tu ne vas plus nulle part. Alors tu restes avec qui? Avec toi-même. Ça devient de l'égoïsme. Que dit l'Écriture? Quelqu'un m'a dit l'autre jour à Aix-en-Provence, cette chose que j'ai peut-être déjà citée, je m'excuse. C'était un pasteur que je n'avais pas revu depuis 25 ans et je ne me souvenais plus de lui avoir dit cela. Il était étudiant à Grenoble, en France à ce moment-là. Et il me dit, oh, vous savez, vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit un jour après votre conférence à la faculté de Grenoble? Je vous ai demandé, j'hésite entre deux églises. Dans laquelle croyez-vous que je dois aller? C'était deux confessions différentes. C'était, je crois, les frères, puis les autres, c'était les pentecôtistes. Alors, on s'attendait à ce que je dise quelque chose. Alors, je lui ai répondu, puis il m'a rappelé ça. Eh bien, chers messieurs, si vous attendez de trouver une communauté parfaite, dites-vous bien que le jour où vous y serez, ne le sera plus. Et ça l'avait... Ça l'avait arrêté, hein. Je n'avais pas dit qu'il faut aller chez les frères ou qu'il faut aller chez les pentecôtistes, mais le jour où vous croirez avoir trouvé la communauté parfaite, eh bien, du fait que vous y serez, elle ne le sera plus. Et ça l'avait marqué. Moi, je ne me souvenais plus de lui avoir dit ça. Il faut répondre et d'une parole qui puisse marquer quelqu'un et le conduire dans un sentier d'intelligence. Donc, il ne faut pas s'isoler, mais aussi, il faut se rendre compte que partout, il y a des lacunes et il faut nous supporter. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Et c'est vrai, hein? Il y en a qui ne sont heureux que quand ils manifestent leurs pensées les plus stupides. Alors, ils sont en forme, là. Mais quand on leur parle de choses intelligentes, vous sentez qu'ils ne suivent pas. Mais quand on leur donne l'occasion de manifester le fond de leur cœur, leurs pensées, alors ils excellent. Hein. Ils deviennent des orateurs pour dire des stupidités. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Et avec la honte vient l'opprobre, il n'y a pas de difficulté. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Ça, c'est un très beau verset. Il faudrait faire une fin de semaine biblique sur ce verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui coule, des eaux profondes comme un océan, des eaux profondes comme un fleuve. Et ça me fait penser qu'au début, dans la préparation de ce camp, nous avons vu ce fleuve, ces eaux profondes depuis le début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous avons vu ce torrent qui coule, ce torrent de la grâce, les paroles du Seigneur. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Ça vous fait penser à quoi? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coulera son sein. Ça vous fait penser aussi au 47 d'Ézéchiel. Hein? Les eaux profondes, on en a jusqu'aux chevilles des pieds, on en a jusqu'aux genoux. On en a ensuite jusqu'aux reins. Puis après, on est dans le fleuve. On nage. Plus vous persévérez dans la lecture de la parole, dans la connaissance de la parole, plus vous éprouverez la réalité de ce texte. Et vous deviendrez, là où vous êtes, une fontaine qui jaillit, une source qui jaillit. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Là, nous comprenons facilement. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Est-ce que vous aimez ça? Des friandises. Que de gens sont friands de ces paroles-là, hein? Les paroles d'un rapporteur. Puis après, on continue de les colporter plus loin. Et puis, ça augmente. N'aimez pas les friandises. Ces friandises-là, du moins. Et puis, nous allons plus loin. Celui qui se relâche dans son travail, il est le frère de qui? De celui qui détruit. C'est la même chose que celui qui détruit. Si tu te relâches dans ton travail, tu es comme celui qui détruit. Et ça, c'est vrai. Dans les usines, c'est vrai partout. Quand on se relâche dans son travail, on est comme quelqu'un qui détruit. Ça nous remet en question quand je me relâche. Et dans le travail spirituel, hein? Si je me relâche dans ma vie spirituelle, je suis compagnon du destructeur, comme celui qui détruit. Une autre version dit compagnon du destructeur. Et qui c'est le destructeur? C'est Satan qui nous pousse à la paresse. Et nous avons été mis en garde contre la paresse. Et le verset 10, une merveille, hein? Le nom de l'Éternel est une forte tour, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Le nom du Seigneur. Oh, on pourrait méditer sans fin sur le nom du Seigneur. Tout ce qui est ce nom, eh bien, il est pour nous comme une tour et on peut se réfugier dans ce nom. Ce nom nous sauve, ce nom nous instruit, ce nom nous protège, ce nom nous couvre, ce nom nous guérit. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille, mais c'est seulement dans notre imagination que c'est une haute muraille. Ce n'est pas dans ma richesse que je me confie. Celui qui reprend, qui répond avant, il y a de nouveau le verset 12, hein, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. C'est la deuxième fois que nous trouvons ça. L'humilité avant la responsabilité. C'est dit deux fois. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est par là qu'il faut commencer. Et alors là, vous trouvez tous les passages, tous les exemples de Joseph et de bien d'autres qui ont dû passer par l'humilité avant de connaître la gloire. Mais quand l'homme s'élève, eh bien, quand le cœur s'élève, il va aussi à la ruine. Verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté, voilà encore une chose. Est-ce que je suis toujours prêt à répondre? Est-ce que je ne peux pas d'abord écouter? Et voyez-vous, il y a chez celui qui peut écouter quelqu'un une puissance extraordinaire. Surtout dans la cure d'âme. Dans la cure d'âme, il est question surtout d'écouter. On n'a pas des solutions pour les gens comme ça. Alors, j'ai plein de solutions dans mon cœur pour vous, pour tous vos problèmes. Alors, expliquez-moi votre problème, puis j'espère que vous le ferez en quelques instants. Vous me racontez ça, puis moi je vous dis ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah, voilà, maintenant. Voilà, vous avez la réponse. Non. Si je prends le temps de vous écouter, je m'humilie parce que des fois c'est difficile de prendre le temps. Alors, on écoute. Et au fond, on n'a pas besoin de dire grand-chose pour que la personne ait la délivrance. Bien souvent. Quand nous écoutons avec prière, la personne, sentant qu'on a un intérêt pour elle, s'ouvre. Et puis, tout à coup, c'est même elle qui découvre la solution. Parce qu'on a pris le temps de l'écouter. Elle a pu s'ouvrir. Puis tout d'un coup, la lumière se fait parce que on écoute, mais dans la prière, en disant, Seigneur, montre-lui. Seigneur, enseigne-la. Puis tout à coup, elle comprend. Je pourrais vous raconter bien des cas où ça est arrivé, où un homme qui n'avait peut-être pas beaucoup de possibilités pour donner des réponses, mais il avait cette puissance d'écoute. Et il a été l'instrument de délivrance de plusieurs personnes, là où d'autres spécialistes de psychologie et d'autres, même de cure d'âme spirituelle, avaient échoué. Et ces personnes ont pu témoigner, c'est parce qu'on m'a écouté que j'ai trouvé la solution. Alors celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Donc, que je me garde de faire un acte de folie. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, et c'est vrai, mais l'esprit abattu qui le relèvera. Parce que c'est l'esprit qui doit dominer notre âme et notre corps. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. C'est vrai que quand on fait des présents, peut-être que l'on peut élargir notre chemin et avoir accès auprès des grands. Les grands sont sensibles à des présents. Mais est-ce que je dois faire cela? Il m'est simplement montré ce qui peut arriver. Alors, à moi de savoir ce que je dois faire. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on examine. Ne portez jamais un jugement en n'ayant entendu qu'un son de cloche. Écoutez l'autre côté. C'est la sagesse qui vous dit cela. Parce que quand on entend quelqu'un dans un conflit, quand quelqu'un vient nous raconter ce qu'il a contre un autre, hein, est-ce qu'il dit qu'il a tort quand il commence? Qu'est-ce qu'il essaye de nous montrer? Qu'il a raison. Hein. Et tous ces arguments sont là pour nous prouver qu'il a raison. Alors, on est influencé et on serait tout prêt peut-être à lui donner raison. Mais quand on entend l'autre son de cloche, hein, l'autre partie, la partie adverse, lui aussi nous paraît avoir raison. Alors il faut vraiment du discernement parce que les deux ont des arguments. Et c'est pourquoi il faut une grande sagesse pour trancher dans ces questions. Et quelquefois, il faut réunir les deux choses. Parce que les deux ont tort de se disputer et les deux ont raison sur des points et tort sur les autres. Oui, le premier qui parle dans sa cause paraît juste, mais vient sa partie adverse et on l'examine. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Ça peut être vrai pour se partager un héritage, ça peut être vrai le sort encore dans certains domaines, mais nous gardons ce que nous vous avons dit ce matin, depuis la venue du Saint-Esprit, eh bien, on ne va pas tirer au sort pour savoir quelle décision nous devons prendre, mais on va prier et le Seigneur va nous éclairer. Dans les domaines tout à fait matériels, on peut tirer au sort, mais pas dans ce domaine-là, spirituel. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Les verrous d'un palais, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont solides, ils sont résistants. Hein. Ben, les querelles entre frères, c'est quelque chose de dramatique. Je ne sais pas si vous en avez l'expérience. Hélas, dans les familles où il y a eu des querelles, vous avez des frères qui ne se saluent plus, qui ne se voient plus, et même qui seraient prêts à se tuer. J'étais en Galilée il y a 3 mois, et j'ai vu un homme qui a pu résoudre des querelles entre familles dans une famille où les frères voulaient se tuer. Parce que les frères sont intraitables quand ils ont une querelle. C'est pire que des ennemis qui ne sont pas apparentés. Verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et c'est vrai aussi que, suivant ce qu'on dit, on se fait vraiment du mal. On détruit notre santé, on aura cet amaigrissement, on ne saura pas être rassasié. Mais si notre langue produit des choses vraies, des choses justes, eh bien, nos paroles même nous rassasieront. C'est toute l'histoire de la langue ici que vous avez. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, parce que c'est ça le verset clé. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Quelqu'un vient de nous quitter et il m'a dit qu'il fallait beaucoup prier pour lui parce qu'il avait un grand problème et que cela touchait justement ce choix. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Quelle femme? Est-ce que tous ceux qui ont trouvé une femme ont trouvé le bonheur? Une femme vertueuse, qui la trouvera? Alors, si je ne suis pas capable de la trouver, qu'est-ce qu'il faut que je demande? Seigneur, mets-la devant moi. Fais comme pour Adam. Amène-la. Il l'amena. Quand Adam a cherché, il l'a trouvé avec des animaux. Il n'y avait pas d'aide qui lui correspond. Fruiterie. Non, mais c'est vrai. Il n'a pas trouvé d'aide qui lui correspond. Alors Dieu a eu pitié de lui. Et il a fait l'aide et il la lui amena. Mais moi, je voudrais que vous, les jeunes, qui avez peut-être encore tout l'avenir devant vous, que vous soyez une fille ou que vous soyez un garçon, que vous puissiez dire, c'est le Seigneur qui me l'a donné. C'est lui qui me l'a fait rencontrer. Mettez le Seigneur dans vos vies. Et il ne vous trompera pas. C'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Est-ce qu'on se souvient de ça? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer ma femme. C'est lui qui l'a fait. Je n'y suis pour rien. Hein? Une femme qui naît en Chine, un gars qui naît en Suisse, puis se rencontre à Montréal. Donc, le Seigneur est au-dessus de tout. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Pas besoin d'expliquer ça, hein, c'est trop connu. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Qui est-ce qui a beaucoup d'amis? Le riche. Et souvent il les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Qui est cet ami plus attaché qu'un frère? C'est Jésus. Jésus est l'ami plus attaché qu'un frère. Alors on dira que le chapitre 17, c'est le frère qui est né pour la détresse. C'est qui? Ce frère qui est né pour nous, pour la détresse, et qui n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est qui? C'est Jésus. Il est le frère né pour la détresse. Il s'est incarné pour nous apporter la délivrance. Et là, nous avons l'ami plus attaché qu'un frère, le Seigneur. C'était un peu long, mais on a quand même vu tous les versets. On les a survolés. Nous prions. Notre Dieu, nous voulons te demander que par ton esprit qui sera notre mémoire, tu nous rappelles des textes que nous venons de considérer, et qu'ils deviennent comme des flèches qui nous pénètrent et qui nous atteignent au plus profond de nous-mêmes. Nous avons besoin d'être corrigés, nous avons besoin de voir clair, que ta parole soit vraiment cette lampe qui nous éclaire, que nous acceptions ces paroles, qu'elle ait accès auprès de nous. Il nous semble t'entendre, Seigneur Jésus, toi qui disais, ma parole n'a pas d'accès auprès de vous. Et pourtant, c'était toi qui la présentais. Seigneur Jésus, donne-nous, dans ces journées, de constater que ta parole a eu un accès dans nos cœurs et que sur ce que tu nous as montré qui a pu nous atteindre, un changement commence à s'opérer. C'est la grâce que nous te demandons pour les uns et pour les autres. En te louant, en te bénissant, en te priant de garder encore nos bien-aimés qui nous quittent ce soir, préserve-les sur la route, donne-leur beaucoup de joie, de retrouver leur famille, leur foyer, et qu'ils soient en bénédiction à tous ceux qu'ils rencontrent, et que tu restes avec nous pour nous édifier et nous donner de pouvoir aller jusqu'au bout de notre course en Jésus. Amen. Amen.